Avertissement, avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Bienvenue, mesdames, messieurs, à cette émission peut contenir des infos. J'espère qu'elle ne vous donne pas la gueule de bois, même si vous la consommez sans modération. Non, mais écoute, c'est parce qu'il y a des gens qui peuvent l'écouter à la radio puis ils nous aiment tellement que de temps en temps, ils sont tentés d'aller nous réécouter, par exemple, sur radio-rfa.com.
Ah, oh, OK.
Ou même des fois, ils disent, ben, il me semble que je l'écouterai ailleurs en plus, sur nos radio.ca, par exemple, notre plateforme de streaming et de balado.
Wow!
On est sur TuneIn Radio aussi, savais-tu ça?
En plus?
On est sur YouTube Music. Ça n'arrête pas, je te le dis. Il y en a partout. Fait que les gens qui veulent se... Excusez l'expression,
mais
se...
On va prendre une bonne brosse, là, finalement.
Ah ouais, les gens qui veulent se saouler de notre émission, n'avez partout. Et là, j'encourage pas la consommation d'alcool.
Non.
Ça n'a rien à voir, c'est pas ça.
Non.
Mais,
on n'encourage pas ça.
C'est tacou. Tacou que ça vous tenterait, là, tu sais.
Ben, tu sais, des fois, là.
Comment ça va?
Ça va bien, toi.
Oui, ça va très bien. T'allais dire quelque chose?
Oui, j'allais te demander.
Ouais.
As-tu déjà bu du vin de pissenlit?
J'ai essayé de faire du vin de pissenlit. J'ai essayé de boire du vin de pissenlit.
OK. Et ça donnait quoi?
C'est, tu sais, il y a un vieux proverbe latin ou romain qui disait, tu sais, comme « Vini, vidi, vici, j'ai vu, j'ai vaincu. Moi, je suis venu, tu sais, oui. je l'ai essayé, j'ai goûté, puis j'y reviendrai pas. »
Non.
Okay. C'est, j'ai été pas vaincu au point, tu sais, je veux dire, pas dans le sens où j'en ai bu, là, à satiété, mais c'est comme deux gorgées, puis j'ai fait comme « Ben, non. »
Je me souviens, plus jeune, mon père avait un ami qui faisait du vin de pissenlit. Et c'était pas si mauvais que ça.
Ça a l'air... Moi, quand j'ai parlé de ça à un moment donné à mon père, il dit, ta grand-mère, là, il dit, elle faisait du vin de pissenlit, le petit, quand il venait des adultes, des parties, tout ça. Tout le monde en redemandait. Mm-hmm. Il dit, ah, ouais, hein? Ben, je vais essayer ça. Fait que ramasse des petits boutons de pissenlit avec ma femme, tout ça, puis commence à me macérer ça, puis non, ça a pas donné le bon résultat.
Non, hein?
Non.
Ben, c'est pas grave, parce que tu l'as essayé, Simon.
Oui, je l'ai essayé.
C'est ça qui est important.
Et j'entretiens depuis la culture...
L'important, c'est de participer.
C'est ça. Et j'entretiens depuis la culture des pissenlits ou presque sur mon terrain.
Ben voilà. Ben, c'est parce que je te parle de ça parce que notre premier invité...
Oui.
On va se parler pissenlits.
Puis on va en parler en long et en large, là.
C'est M. Claude Lavoie. Il est professeur à l'Université Laval. Puis il a écrit un livre. Moi, j'adore le titre de son livre. « Pissenlit contre pelouse, une histoire d'amour, de haine... » et de tondeuse.
Wow! Lui, il en connaît pas mal sur les pissenlits. Est-ce qu'il va vous réconcilier avec cette plante ou cette fleur honnie de pas mal de gens? On tripe pas mal gazon en Amérique du Nord, tu sais.
On est pas mal gazon vert.
Ouais, on aime ça vert, coupé ras, tu sais.
Oui. Puis tu vas dans un quartier, là, puis tu vois le monde qui... Oui.
On a plein d'autres sujets, et puis on commence-tu là? Ça
ben oui, on va commencer là. Là.
Veux-tu y aller le premier?
Tu connais-tu Jean-Michel Jarre? Bien sûr que
oui,
tu connais.
Oui, compositeur, là.
Compositeur de musique un peu...
alternative, atmosphérique et tout ça, là.
Oui, nous autres, on appelait ça de la musique bizarre quand j'étais plus jeune.
C'est vrai, hein?
Mais moi, je l'adorais, Jean-Michel Jarre, parce que je trouvais qu'il était... tellement bon musicien.
Oui.
Je te parle de lui parce que il a été le premier passager à bord de la Air Car.
De la quoi?
Une voiture volante développée par l'entreprise slovaque Klein Vision.
Ah, ouais, hein?
Ouais.
Ah, c'est spécial.
Imagine. Ça fait déjà 2 ans que la Air Car a reçu son certificat de vol. Ils ont fait jusqu'à maintenant 520 décollages et à peu près 130 heures de vol à au compteur de la Air Car. Mais finalement, elle a pu accueillir un premier passager. Ils ont choisi Jean-Michel Jarre.
Ouais, ils ont dit on va aller choisir un grand nom. Là.
Qui a trippé pas à peu près.
Quelqu'un qui nous a fait planer par la musique.
Oui.
On va le faire planer dans une voiture volante. Hey, aïe, aïe, aïe.
C'était cute, ton affaire.
C'était pas pire, hein, comme analogie.
C'était pas si pire.
Moi, pour peu que tu planes pas avec d'autres affaires, là, tu sais, c'est... Ça devient planant pas mal.
Et dans les années 70. La voiture volante peut se transformer en avion en seulement quelques minutes. Le tout simplement en cliquant sur un petit bouton.
Oh!
C'est rendu aussi simple que ça. Contrairement aux autres prototypes de drones taxis qui peuvent décoller et atterrir verticalement, la Aircar, elle, a besoin d'une piste d'atterrissage.
OK, donc c'est pas comme on avait parlé à un moment donné, les EVTOL, par exemple.
Non, c'est pas la même affaire.
Les Vertical and
Landing. C'est ça, eux autres, ils décollent horizontalement.
VTOL, Vertical Takeoff and Landing.
Oui, c'est ça. Mais elle a besoin vraiment
d'une piste.
C'est comme un avion. Dans le fond, il y a des ailes, là.
Hey, c'est un gadget
qui se déploie. Là.
C'est quasiment gadget James Bond, là.
Un petit peu, oui. Les ailes de la voiture peuvent se rétracter sur le côté.
OK. Hein?
Le véhicule prend pas ben plus de place qu'une voiture ordinaire, là.
Eh bien.
Ah non, c'est vraiment, c'est super bien fait. Et en plus, elle a un moteur BMW, donc relativement performant, le fun à conduire. Et ça prend de l'essence régulier.
Ah! Oh, fait que t'as pas besoin d'avoir du kérosène, là, l'espèce de pétrole à avion.
C'est pas le pétrole à avion.
Ah, ben c'est pas pire, ça. Non.
Eh, effectivement.
Et c'est disponible, ben disponible là, je veux dire, à commencer.
Ben oui, à commencer à faire des vols. Puis, il y a une compagnie de la Chine qui a acheté les brevets.
Ah. Oh.
Et...
okay. C'est le gars le gros des pis, là, tu sais, comme...
Ah, ben là... Okay. et probablement qu'on verra...
Ils vont la commercialiser, puis ils n'ont pas acheté ça, finalement, pour la mettre dans un fond
juste
de tiroir.
Juste pour la mettre, non.
Ben, ça arrive des fois hein, qu'il y a des inventions comme ça qui arrivent. Elles ont l'air trop belles pour être vraies.
On ne reviendra pas sur ce moteur rouleau.
Non, ouais, c'est ça. Puis là, à un moment donné, ah, ça fonctionnait trop bien.
Oui,
pas pourquoi il est disparu.
Ah,
on ne voit plus. Magie.
Oui. Toi, tu nous parles de quoi?
Est-ce que tu te demandes pourquoi tantôt je parlais de gueule de bois et de consommation d'alcool?
Ben, moi, je pensais que tu pensais aux 20 pissenlits?
Bien, entre autres choses, au fait qu'il y a des gens qui puissent consommer cette émission-ci de façon déraisonnable en l'écoutant par cela, repassant en boucle.
Déraisonnable,
hein? Ça se peut, je sais pas. Dis ça de même.
Ça se peut.
Non, mais tu sais, on a le droit de rêver.
Ben oui.
Non, mais attention, oui,
mais pourquoi?
Mais parce que je vous dis qu'il sera peut-être dans un avenir très, très rapproché, il sera peut-être possible de boire de l'alcool sans en subir les contre-coups.
Hein?
Attention, là. C'est pas, je suis pas en train de vous inciter à consommer de l'alcool.
Non, non.
Et encore moins de façon déraisonnable et irresponsable. Oui. Mais, car il y a un mais.
Oui.
Des chercheurs de l'École polytechnique fédérale de Zurich. Zurich, c'est en Suisse, ça?
Oui.
Ils ont développé un produit assez novateur. C'est un gel qui rend l'alcool inoffensif.
Ouais. Explique-moi ça. Là.
On l'a testé sur des souris qui ont consommé de l'alcool sans subir les dommages ni les contre-coups. Des essais cliniques, évidemment, plus approfondis vont être encore nécessaires avant que le produit soit autorisé pour des humains. Mais en ce moment, les chercheurs sont assez satisfaits, même très convaincus par leur affaire. Ouais. Alors, en clair, ce que le gel qu'ont développé les chercheurs en question, ce qu'il fait, c'est que ça dégrade l'alcool qui passe dans le tube digestif avant qu'il se transporte dans le sang. Et c'est les résultats de cette étude-là ont été publiés dans la revue spécialisée Nature Nanotechnology. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est que, oui, le gel en question pourrait réduire les effets nocifs de l'alcool chez l'humain, mais évidemment, les effets enivrants en même temps.
Ben oui.
C'est parce que tu ne peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre, puis le sourire de la fermière, tu sais, c'est ça. Alors, quand on consomme de l'alcool, ce que ça fait, c'est que l'alcool passe dans l'estomac et l'intestin, il est absorbé par la suite dans la circulation sanguine et il est transporté vers le, tu sais, dis-le, hein? le foie.
Le foie?
Le foie.
Le foie?
Ouais, tu sais, t'en souviens-tu de la foie?
La foie,
alors, c'est ça. C'est là que, quand l'alcool se transporte dans le sang et s'en va ensuite dans le foie, c'est là où commencent nos problèmes.
Oh,
parce que c'est là que la plus grande partie de l'alcool va être métabolisée ou décomposée. Mm-hmm. Et le foie renferme des enzymes qui vont transformer l'alcool en différents composés, comme de l'acétaldéhyde.
OK.
Et ça, c'est un produit toxique. Notre problème avec l'alcool, c'est pas le résultat à proprement parler qui est l'acide acétique. oui, c'est pas terrible, terrible, mais ouais. C'est surtout l'acétaldéhyde. Okay. C'est ça qui est un produit toxique qui détruit le foie. Mais ce gel en question qu'ils ont inventé transforme l'alcool, autrement dit, il passe le processus du foie, il transforme l'alcool directement en acide acétique sans qu'il se transforme en acétaldéhyde, okay. Puis qui crée des problèmes au foie. Alors, la façon de fonctionner, c'est qu'on va ingérer ce gel-là avant ou pendant qu'on consomme de l'alcool. Et de cette façon-là, le gel en question va transformer l'alcool au fur et à mesure de telle façon que on n'aura pas la gueule de bois.
Ah, oh ben.
Si le sang, pas le sang, mais si l'alcool est déjà passé dans le sang, ben là, il va avoir des problèmes parce que le gel, il ne pourra pas agir. Il faut qu'il transforme l'alcool en amont.
Bon, c'est ça. Okay.
Voilà. Pourquoi on l'a créé, ce gel-là? C'est qu'il pourrait s'avérer intéressant pour les gens, par exemple, qui sont des buveurs sociaux, on va dire, qui veulent, consommer de l'alcool.
Temps,
c'est
là.
Ça.
Oh, oui.
Tu sais, dire, moi, ça ne me tente pas de couper carrément l'alcool. J'aime ça, consommer de temps en temps de l'alcool.
Ben oui.
Puis, ça peut arriver des fois qu'une soirée, ben j'en boive un petit peu plus, mais je n'ai pas nécessairement le goût de même me lever avec, comme je savais, un 2x4 en travers de la tête, tu sais. Fait que ça pourrait les aider. Okay. Et ça a été démontré dans leur étude que l'utilisation de ce gel-là en combinaison avec de l'alcool ne modifiait pas le comportement des souris en question. Ils se comportaient de la même façon qu'elles aient consommé de façon immodérée de l'alcool ou qu'elles en aient pas pris. Magie, juste avec ce gel-là, elles métabolisaient de façon beaucoup plus facilement cet alcool qui n'avait pas d'incidence. Alors attention là, on dit, on n'a pas inventé ça pour que les gens qui sont, disons, alcooliques ou surconsommateurs d'alcool en boivent encore davantage.
Oui, c'est ça là.
C'est pas ça l'idée.
Non.
L'idée, c'est que, de toute façon, le gel, il va réduire les effets enivrants. Donc,
oui, c'est ça.
Le gars qui boit de l'alcool pour se mettre sous,
ben oui.
Il n'y aura pas de fun avec ça là. Parce que tu prends le gel, tu prends de l'alcool, puis ça te donne pas le buzz, entre guillemets.
C'est ça.
C'est ça, là. Mais ça pourrait quand même, par exemple, réduire les décès liés à l'alcool, les accidents. Tu sais, mettons que tu prends 4-5 verres dans une soirée, t'as pris ton gel, t'as pas les effets de l'alcool, tu prends le volant, puis t'es correct pour conduire, tu pètes pas la baloune, tu pourrais réduire les risques d'accident. T'sais, c'est toutes des affaires comme celle-là qu'on... Alors, évidemment que la technologie, avant qu'elle soit mise sur les tablettes ou qu'elle soit commercialisée, c'est clair qu'il va y avoir à faire d'autres essais cliniques, mais déjà, on est très, très encouragés. Et là, je vous entends, vous dites, c'est quoi cette patente-là? Parle d'un gel, c'est quoi ça?
Un
gel anesthésiant ou quoi que ce soit? Ben attention, c'est composé de lactosérum, c'est un sous-produit de la fabrication du fromage, simplement. On le fait cuire dans une certaine mesure, ce produit-là. On ajoute du sel, de l'eau, du fer, du glucose et de l'or au gel.
De l'or?
De l'or, oui, de l'or. C'est sûr qu'il ne se vendra peut-être pas 2$ la bouteille de 500 millilitres, mais en même temps, tu sais, je veux dire. Alors, donc, ça devient à toute fin utile une espèce de cocktail ou un composé chimique qui fait que l'alcool passe directement à l'état d'acide acétique avant de devenir de l'acétaldéhyde. Et c'est ça qui cause notre gros problème. Bref, de l'alcool, tu bois.
Oui.
Pas nécessairement de façon immodérée, mais
normal.
Le lendemain, tu te lèves, tu fais comme ah! Quelle belle journée, va travailler, j'ai pas de problème.
Aller manger mes whittabies.
Alors voilà.
Hein? Mais ce que je trouve, moi, le plus surprenant de ton histoire, c'est comme je savais pas ça, là, comme les souris consomment.
Ouais, ben ils ont peut-être forcé un petit peu, là, mais c'est ça.
C'était pas volontaire.
Il n'y a pas une taverne où tu vas rentrer là et tu disais « Oh, c'est Ramos, Mickey Mouse est en train de prendre une brosse. » Là, tu sais.
Mickey Mouse, peut-être. Là, mais...
ben, peut-être, en tout cas. Dans un moment, on parle de pissenlit et de pelouse aussi. Restez branchés.
Pour rester en contact avec Peu contenir des infos, abonnez-vous à notre page Facebook. Si vous avez des idées, des suggestions ou des questions à nous soumettre, écrivez-nous par courriel pcdi@radiorfa.com.
C'est le moment de l'année où on en voit partout.
C'est jaune.
C'est jaune pas mal. Les pissenlits.
Il y en a, je sais pas s'il y en a plus cette année, mais il me semble que oui. Et est-ce que les gens font plus attention pour pas les couper ou, tu sais...
Je lève la main parce que je suis de ceux-là. Je suis de ceux-là qui relèvent le défi du mois de mai, le défi sans tondeuse, dans une optique d'écologie ou de je sais pas trop, peut-être aussi pour passer un peu pour un extraterrestre devant mes voisins. Qui, eux, il y en a qui sont rendus à la troisième ou la quatrième tente de la saison. Là. C'est pas des
farces. Mais j'étais comme ça avant, moi aussi. Je tondais souvent mon gazon pour ne pas avoir de pissenlit.
OK, mais là, t'as peut-être changé ton fusil.
Ah oui, j'ai changé mon fusil d'épaule cette année. Oui.
Et on va recevoir quelqu'un qui en connaît pas qu'à peu près sur les pissenlits.
Pas mal.
Il est professeur à l'École d'aménagement du territoire à l'Université Laval, c'est dans la région de Québec, et non seulement ça, mais il est aussi auteur d'un livre qui se consacre à la question, rien de moins. Ça a pour titre « Pissenlits contre pelouse, une histoire d'amour, de haine et de tondeuse ». C'est paru aux éditions Multimonde, on l'a avec nous au téléphone, M. Claude Lavoie est là. Bonjour M. Lavoie.
Bonjour.
Monsieur Lavoie, dites-nous d'abord, pourquoi avoir écrit un ouvrage, je veux dire, en entier, consacré à rien de moins que la pelouse et au pissenlit? Ça vous est venu d'où, cette idée-là?
Ça m'est venu de deux choses. D'abord, moi, je suis un spécialiste des plantes exotiques envahissantes et le pissenlit est exotique, puis on peut certainement pas dire qu'il n'est pas envahissant. Peut-être même une des plantes les plus envahissantes en Amérique du Nord. Et c'est une plante à la biologie assez particulière et fascinante. Mais au-delà de ça, moi, ce qui m'intéresse de façon particulière, c'est pourquoi le pissenlit, qui est une plante somme toute assez inoffensive, est à ce point détesté. Et encore plus fascinant, depuis l'émergence du défi pissenlit, qu'on appelle en anglais « nomomé », comment se fait-il que cette plante honnie des banlieusards pendant des décennies s'est transformée en quelques années en héros environnemental des temps modernes qui va sauver les abeilles? Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est ce que raconte pour l'essentiel ce livre.
Qu'est-ce qu'on devrait savoir du pissenlit et que la majorité des gens ignorent? Et qu'est-ce qu'ils vont apprendre de vraiment surprenant en lisant votre livre?
Oui, ils vont apprendre beaucoup de choses. D'abord, le pissenlit a une longue histoire. Et bon, évidemment, on peut remonter à il y a plusieurs millions d'années là, dans ses origines biologiques, mais on connaît l'histoire du pissenlit depuis l'Antiquité, mais surtout depuis le Moyen Âge, parce que c'est une plante qui a été beaucoup utilisée à des fins alimentaires, médicinales. Ses propriétés sont plus ou moins avérées, mais à tout le moins, elle a été utilisée. Et jusqu'à la fin du 19e siècle, le pissenlit était, somme toute, une plante plutôt appréciée pour toutes sortes de raisons, notamment parce qu'on pouvait en faire des boissons alcoolisées. C'est vraiment avec l'émergence de la tondeuse, mais plutôt de la pelouse. Bon, la pelouse existe depuis le début du 19e siècle, mais elle a commencé à se populariser au début du 20e et surtout après 1950 avec les banlieues. Et c'est là que le pissenlit va devenir franchement détesté, parce que ce sera un intrus dans la pelouse. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre avec le pissenlit, mais surtout, l'évolution de la perception qu'on a de cette plante-là est assez particulière et fascinante.
Mais dites-nous une chose, là, M. Lavoie, vous nous parlez de ses vertus qu'on lui a prêtées depuis des siècles, voire des millénaires. Hein. Vous avez parlé d'alimentation, de boissons, médecine et tout ça, même qu'on en apprend sur les vertus écologiques du pissenlit là, dans votre bouquin. Et on en a même fait un mois complet là, où on passe pas la tondeuse pour le sauver. Mais pourquoi il est si détesté que ça, ce pissenlit? Et pourquoi on nourrit un pareil amour de la pelouse? C'en est fascinant. Je le disais tantôt, j'ai un voisin devant de chez nous. Je pense qu'il est rendu à la troisième ou quatrième tente de la saison pour avoir un green de golf en avant de la maison. Moi, je trouve ça un peu, je sais pas. Pourquoi on agit comme ça par rapport au pissenlit et à l'inverse, de la même façon, avec un amour inconsidéré pour la pelouse?
Ben, vous avez dit green de golf et vous avez mis le doigt sur le bobo, comme on dit, parce que, bon, comme je dis, la pelouse inventée pour l'essentiel au 18e siècle se popularise petit à petit, mais c'est l'émergence de l'industrie du golf, ça va se faire surtout dans les 20 premières années du 20e siècle, que la pelouse va devenir assez importante. Et il y a des agronomes dans les années 20 à qui on va demander... On aime ça, la pelouse dans les terrains de golf, mais pouvez-vous créer une pelouse domestique là, qui sera vraiment facile à cultiver sur les terrains? Alors, ils vont exporter la pelouse du golf vers les terrains domestiques, mais le problème, c'est qu'ils vont exporter le green de golf, donc le vert de golf, cette pelouse manucurée à l'extrême. Évidemment, l'industrie du gazon va profiter de ça parce que pour entretenir une telle pelouse, ça prend beaucoup de soins et donc beaucoup d'argent. Et le pissenlit va arriver comme un intrus. Il n'est pas désirable dans une pelouse de cette confection-là. Et c'est là que la haine va peu à peu s'installer, mais surtout, évidemment, avec l'émergence de la banlieue de faible densité résidentielle, où là, on va avoir des maisons petites, mais avec de grands terrains, donc beaucoup de place pour la pelouse.
Il y a des conséquences, bien entendu, avoir une pelouse impeccable, il y a des conséquences environnementales.
Oui, elles sont d'ailleurs de plus en plus dénoncées, puis avec raison. Ben, d'abord, ce sont des grands consommateurs d'eau. En ville, ça peut représenter jusqu'à la moitié de l'eau qui est consommée. Donc, c'est quand même pendant la saison estivale, bien sûr, donc c'est quand même assez important. Pour avoir une pelouse impeccable, ben, ça prend des fertilisants qui sont... qui lorsqu'ils se retrouvent dans les eaux de lessivage, vont finir par contaminer les cours d'eau. Ça prend aussi des pesticides et ça prend beaucoup de pétrole pour l'entretenir si, évidemment, vous avez une tondeuse qui fonctionne à essence. Bref, c'est pas particulièrement sain pour l'environnement. Entendons-nous, c'est mieux d'avoir une pelouse que d'avoir de l'asphalte, là. Ça, tout le monde va s'entendre là-dessus. Mais il y a peut-être des coups. Et ça reste un couvre-sol très pratique. Mais entre la pelouse, entre l'asphalte et la pelouse impeccable, 100% Paturin Després, il y a des intermédiaires. Et c'est d'ailleurs le lot de la majorité. À peu près les deux tiers des personnes ont ce que j'appelle une pelouse négligée, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être mettre du fertilisant une fois par année, ils vont la tondre une fois de temps en temps, mais ça ne sera pas une pelouse impeccable et c'est très bien comme ça.
Mais M. Lavoie, vous l'avez dit, là, il y a des alternatives. Mettons que je ne veux pas avoir en avant de la maison chez nous, je ne suis pas obsédé à ce point-là pour avoir un verre de golf, même que je fais partie un peu des... Je ne dirais pas négligent, mais tu sais, j'en fais pas une obsession non plus, la tondeuse une fois de temps en temps. Puis en même temps, ben, je ne traite pas particulièrement sur les pissenlits. Bon, je m'en accommode, là, mais mettons que j'en aurais pas, ça me dérangerait pas. Est-ce qu'il y a des alternatives à la pelouse traditionnelle que les gens pourraient envisager à la rigueur?
Ça dépend ce que vous voulez faire avec votre terrain. Moi, par exemple, j'ai pas un très grand terrain. Il est très ombragé, donc j'ai mis de la pervenche et c'est l'entretien zéro. Okay. Donc, je n'ai pas à me transformer en esclave ni de l'horticulture, ni du gazon. Ça ne m'intéresse tout simplement pas. Il y a certains groupes environnementaux qui vont favoriser des plates-bandes très diversifiées, très élaborées, et c'est certainement très bon pour l'environnement et pour les insectes pollinisateurs. Mais moi, ce que je dis souvent, c'est qu'on remplace un esclavage par un autre. C'est pas tout le monde qui est disposé à consacrer aussi autant de temps à l'entretien paysager, sinon en confiant les contrats à autrui. Alors, il y a des formes alternatives, soit qu'on s'en occupe très peu, ou soit qu'on laisse pousser. Il y a ce mouvement de retour à la friche, qui était la norme sociale jusqu'en 1950, soit dit en passant, les gens laissaient leur terrain en friche, et c'était très bien comme ça, c'était accepté. Donc, il y a retour à cette norme sociale, mais il faut faire attention, il faut le faire dans l'ordre. On laisse pas les terrains à l'abandon total, là, ça serait assez mal perçu. Alors, souvent, ce que je propose, tondez une bande, une mince bande d'à peu près 2 pieds de large sur le bord de votre terrain, et ce qui ressemblait à l'origine à de l'abandon va se transformer en une expérience écologique extraordinaire pour les voisins.
Ah,
donc, c'est
oui.
Un peu ce que je suggère en général, et c'est une tendance qui commence à s'inscrire dans les banlieues.
Ah, très bonne idée. Juste une question comme ça, on sait-tu d'où c'est que ça vient, ce fameux pissenlit-là?
Oh, très bien. Oui, en fait, c'est une plante essentiellement européenne avec une bande de terrain, là, de territoire qui va s'étendre en Asie jusqu'en fait à Mongolie. Puis une petite bande aussi de pissenlit officinal qu'on va trouver dans les Himalayas. Mais il faut faire attention, des pissenlits, il y en a plusieurs espèces, il y en a plusieurs dizaines d'espèces. Il y a des pissenlits nord-américains aussi que 99,9999% des gens ne verront jamais parce que c'est des pissenlits arctiques ou montagnards. Alors, ce qu'on voit, c'est le pissenlit officinal, donc celui qui vient d'Europe et qui est très, très, très largement répandu et particulièrement en Amérique du Nord.
Et M. Lavoie, là, au final, là, le monsieur qui est en train d'écouter l'émission actuellement, il est devant sa porte patio, il regarde son terrain, les deux mains, ses hanches, il dit « Ouais, OK, c'est beau, là, mais il y en a du pissenlit, puis pas qu'à peu près. » Qu'est-ce qu'en lisant votre livre, qu'est-ce qu'il devrait retenir au final sur la pelouse ou en fait cette amouraine entre la pelouse et le pissenlit? Qu'est-ce qu'il va retenir au final dans votre livre?
Ben, je veux dire, si ce monsieur-là, et vous avez raison de dire un monsieur, parce que c'est surtout une affaire d'homme, hein, la pelouse, c'est un peu comme les barbecues, mais qu'est-ce que je pourrais lui dire? Ben, évidemment, si pour lui, c'est une passion d'avoir un gazon 100% pur, ben, et qu'il continue à l'entretenir idéalement avec le moins d'intrants possible, ce qui sera assez difficile. Moi, ce que je dis aux gens, c'est, vous savez, du pissenlit, il n'y en a jamais eu autant qu'à l'heure actuelle. Ça fait plus de 100 ans qu'on essaie de s'en débarrasser et on n'y arrive pas. Et les produits qu'on doit utiliser pour s'en débarrasser font pas juste l'amour, elles font vraiment l'affaire de l'industrie du pesticide, parce que le pissenlit peut peut-être s'en débarrasser, mais il va toujours revenir. Donc, c'est très bon pour les affaires. Alors, moi, je me dis, laissons place à ce pissenlit-là, augmentons la diversité dans la pelouse, Et puis, pour garder une relation de bon voisinage, si les gens participent au défi pissenlit, laissez fleurir les pissenlits, mais lorsqu'ils vont monter en semences, coupez-les avant justement que ces semences-là se disséminent et vous permettrez de garder la paix dans votre quartier.
C'est pas si laid que ça, finalement, le jaune avec le vert. Ça va bien ensemble.
Je trouve ça personnellement magnifique. Si vous regardez les champs là dans la région de Québec, bientôt les champs en milieu agricole, ceux qui ne sont pas labourés vont être couverts de pissenlits. C'est vraiment effectivement très joli.
Ouais.
C'est peut-être un peu moins esthétique lorsque ça monte en graines,
mais
ce n'est pas préjudiciable en soi, même pour l'agriculture. En tout cas, en agriculture conventionnelle, c'est pas une très grosse mauvaise herbe. En agriculture biologique, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça figure pas parmi les principales plantes nuisibles dans les cultures.
Espérons qu'on aura réconcilié quelques-uns de nos auditeurs et nos auditrices avec les pissenlits. Il s'appelle Claude Lavoie. Il est professeur à l'École d'aménagement du territoire à l'Université Laval. C'est dans la région de Québec. Il est auteur de ce livre qui a pour titre « Pissenlits contre pelouse, une histoire d'amour, de haine et de tondeuse ». Si vous voulez vous le procurer, c'est aux éditions Multimonde. Monsieur Claude Lavoie, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Avertissement.
Cette émission peut contenir des infos.
On entame la troisième portion de l'émission et en passant,
oui,
on prépare deux émissions des meilleurs moments, des meilleures entrevues de Peut contenir des infos.
De best of.
Alors,
oui.
Écrivez-nous
à PCDI.
Oui.
@
oui.
Radio. RFA.com.
Faites-nous connaître vos entrevues préférées depuis la rentrée d'automne 2023.
C'est ça, exactement.
Est-ce que c'est les poules en ville?
Ça, c'était pas mal intéressant.
Est-ce que c'est les phobies? Attention, c'était bon, ça aussi.
Oh, les phobies, ça, c'était... Ah oui, ça, c'est... Le monsieur aussi qui allait voir les phénomènes paranormaux.
Ça aussi, c'était pas mal. On a eu des bonnes entrevues là, pendant la dernière année. Avant de prendre la route des vacances, faites-nous donc connaître vos entrevues préférées, puis on va faire deux émissions spéciales avec ça d'ici...
Oui. On va se faire
un best-of d'ici les vacances qui approchent, là, rendu
extensionnel. C'est vrai que ça approche. Il reste quoi?
Couple de semaines.
Presque deux mois. Là.
Moi, je vais vous parler de Google. De Google qui a introduit une fonctionnalité.
Google.
Une fonctionnalité avancée de localisation d'urgence. J'espère que ce n'est pas ton sujet, tu voulais nous parler, non? Okay. Regardez, il y avait les yeux longs. Okay. Alors, on aura très bientôt sur nos appareils Android au Canada une fonctionnalité de localisation d'urgence très avancée. C'est Google qui a annoncé
ça. Okay.
Ça va permettre d'assister les services d'urgence en localisant plus rapidement les personnes qui ont besoin d'une aide immédiate. Jusque-là, il y avait certaines limitations dans la géolocalisation des gens qui ont des problèmes, disons, et qui requièrent les services 911. Plus souvent qu'autrement, on se fait une espèce de triangulation entre des antennes cellulaires, par exemple. On essaie de repérer l'agent. Mettons que quelqu'un n'est pas capable de parler ou encore qu'il a raccroché avant de terminer l'appel. Tu sais, on va être capable, à la rigueur, d'essayer de le localiser, mais... Avec plus ou moins de succès.
C'est assez difficile.
Mais cette technologie que Google vient de présenter, c'est précisément ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer justement la géolocalisation en utilisant Wi-Fi, balises GPS et les tours cellulaires pour fournir des informations.
OK, avec les trois, tu devrais être
Beaucoup plus facile. Ils ont tissé un partenariat avec les opérateurs de télécom majeurs là, à travers le pays. On pense à Bell, entre autres, et à Telos, c'est les deux plus gros. C'est avec eux autres qu'ils ont signé. C'est un service qui va être gratuit, mesdames, messieurs. Et qui va être disponible sur la plupart des téléphones Android récents. Juste pour mémoire, vous allez dire, pourquoi là? Pourquoi pas avant? T'sais, c'est quoi qui a fait qu'on arrive avec ça comme... Par exemple, c'était la plus grande invention après le pain tranché puis le couteau ou le fil à couper le beurre, comme on dit. C'est que, vous souvenez-vous qu'en juillet 2022, il y avait eu une méga panne des services de Rogers? Tu souviens-tu de ça?
Oui.
Il y avait du monde là, qui avait été privé de service 911, entre autres.
Entre autres.
Des heures.
Oui.
Des heures sans être capable d'appeler l'ambulance, la police, les pompiers, tu sais, tout ça. Alors là, le CRTC puis les organismes réglementaires avaient dit « Wow! » On ne peut pas se retrouver avec trop souvent des problèmes.
Il faut trouver une solution.
Il faut trouver des solutions à tout le moins. Et celle-là fait partie justement des solutions auxquelles on a abouti.
Intéressant.
Parce que même quand Bell et Telus avaient essayé de prendre la relève sur Rogers, de dérouter certains, ils n'avaient pas été capables de faire, en tout cas pas totalement. Alors, l'objectif ultimement, là, en tout et pour tout, c'est de transformer tous nos systèmes analogiques actuels, qui sont quand même vieillissants, on s'entend, en une espèce de système numérique qui va permettre aux Canadiens de profiter de toute une gamme de services d'urgence de nouvelle génération. Là, on vous parle de géolocalisation, mais ça va être quoi plus tard? Ça va être de, par exemple, envoyer des textos d'urgence à un numéro. Tu sais, comme c'est là, il faut que tu appelles au 911.
C'est ça.
Très bientôt, on va pouvoir texter au 911. On va pouvoir faire des appels par satellite, par exemple. T'sais, déjà, je pense que les gens qui ont iOS, enfin certains modèles d'appareils iOS d'Apple, peuvent placer des appels d'urgence par satellite, même s'ils n'ont pas un forfait satellite. Alors, on va même pouvoir, à la rigueur, éventuellement partager des vidéos d'un incident. On est témoin d'un crime, on filme ou encore on assiste à un feu.
Send.
Tu filmes le coin de la rue, l'adresse, puis t'envoies ça au service d'urgence et tout de suite, alors, ça va être... La façon dont ça va fonctionner, cette nouvelle technologie qu'Android va déployer ou en fait que Google va envoyer sur les appareils Android très prochainement, c'est que je l'ai dit tantôt, on compte sur plusieurs technologies qui sont dans nos téléphones. Et quand vous allez appeler à la centrale 911, il y a un petit point bleu qui va apparaître sur une carte, carrément, de l'intervenant du service 911 et qui va lui dire...
Il va tout de suite savoir où est-ce qu'il
est là. Okay. On va dire qu'il va être pinpoint, là, il va peut-être être à quelques mètres, mais...
Mais proche de là, là.
Donc, tu arrives à trois pieds d'un char qui est en panne ou pas en panne, mais tu es comme accidenté... Comme il n'y a pas trop d'erreurs, là.
Non, c'est
celui-là qu'il faut s'occuper. Et mieux encore, grâce aux capteurs qui sont inclus dans l'appareil, on va même connaître l'élévation terrestre de l'appareil. Wow. Si bien que si vous envoyez un signal de détresse ou vous appelez pour de la misère à vous géolocaliser, alors avec ça, on va savoir le point bleu, il est là, il est à telle adresse, puis il est même à quel étage.
C'est assez fort. Ça, c'est
il est
bon,
à, mettons, on va dire 50 pieds. Alors, 50 pieds, il est à 5e, 6e étage, pas trop, là. Tu vois comment que ça fonctionne? C'est pas pire, hein? On est rendu là.
J'aime ça.
Et ceux et celles d'entre vous qui est un petit peu parano, mettons, puis qui pensent que Big Brother nous surveille partout. D'abord, j'ai des nouvelles. Big Brother, il est déjà pas mal partout.
Ça fait un petit bout qui est partout,
Big Brother. Si vous mettez des photos de votre plus jeune dans Facebook, j'ai des nouvelles pour vous autres, là. Pas mal de monde l'ont vu. Okay? Alors, d'abord, sachez que le service ne s'activera que lorsque vous ferez un appel au 911. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, vous pourrez la désactiver si ça ne vous tente pas qu'on vous trouve plus rapidement perdu en forêt ou encore si vous ne voulez pas que les pompiers arrivent trop vite chez vous quand le feu est pris. Vous pourrez juste la désactiver. Comprenez ce que je veux dire?
Oui, ça, j'aime ça. OK.
Et le service devrait être disponible sur 99,9% des téléphones Android, donc ceux de la version Android 5 jusqu'aux plus récentes versions. Et l'accès ne dépend pas à proprement parler de votre fournisseur de service parce que tous les fournisseurs de services au Canada sont obligés d'offrir le 911.
Fait que vous allez l'avoir automatiquement.
Ça va être dans votre appareil, vous ne payerez pas plus que ça, mais toutes les entreprises de télécommunications, là, tu sais, ils ont dealé avec Bell et Telos, mais toutes, que vous soyez avec Fido, Rogers...
Parce que, tu sais, la majorité des gens, ou en tout cas, dans le monde de la téléphonie cellulaire, Android, je veux dire, c'est 80% du marché.
C'est à peu près ça, ouais, c'est ça.
Alors, c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, il faut tout rejoindre ce monde-là. Et dans Android 14, entre autres, OK, parce que moi, j'ai Android 14 dans mon téléphone.
Oui.
Il y a certaines fonctionnalités de sécurité,
si tu veux,
que tu ne peux pas désactiver.
Ah, OK.
Oui. Ah, j'ai essayé de forcer la fermeture.
Ah, OK.
Puis je pouvais pas.
OK.
Et tu ne peux pas désinstaller non plus l'application.
OK. Fait qu'il y a certaines fonctionnalités de sécurité qui sont là comme pour une espèce de garde-fou, on va dire.
Exactement. Exactement. Puis j'ai trouvé ça brillant parce que, tu sais, à un moment donné, tu es en train de désinstaller des applications dans ton téléphone, puis poink.
Ouais.
Tu sais, ça l'a.
Et c'est comme je le disais tantôt, ça se peut que des fois, les nouvelles technologies et les affaires comme ça qui nous paraissent un petit peu trop intrusives, puis je faisais bien des blagues tantôt, là, tu sais, en disant que
c'était
Palano, puis Big Brother. Mais il y a quand même des alternatives. À rigueur, si tu veux pas avoir un smartphone avec tout l'outfit qu'il y a dedans, puis qui vient avec ça aujourd'hui, en 2024, ben t'acheter une espèce de ce qu'on appelle un feature phone, là, basic, là.
Avec
les appels téléphoniques, puis le SMS, puis tu vas voir ce qu'il y a dedans, là.
Oh oui.
Fait que c'est un petit peu ça, tu sais, c'est comme...
Mais, technologie avance, puis c'est ça qui est intéressant.
Ben ouais, tu sais, il y a un vieux dicton
pour
qui
la
dit,
sécurité
on n'arrête pas le progrès.
Ben non, puis c'est la sécurité des gens, là, tu sais.
C'est ça.
Parlant des gens...
Oui, les gens. Pas hashtag les gens, comme on dit dans les médias sociaux. Le monde en général.
Hashtag les gens? Non, pas. Savais-tu que le piano compte de nombreux adeptes dans le monde?
Ben, j'imaginais, là, mais maintenant que tu me le confirmes.
Non, mais je viens avec cette affirmation, là. Je viens t'affirmer que...
C'est du sérieux, là.
C'est sérieux, là. Mais c'est pas tellement étonnant, puisque la pratique du piano peut être extrêmement bénéfique, surtout chez les personnes âgées.
Oh!
Il y a une étude qui a apporté un nouvel éclairage un peu sur ce fait-là, sur la manière dont gens âgés apprennent à jouer au piano. Et elle montre à quel point cette activité-là entretient leurs fonctions cognitives et leurs capacités motrices sur le long terme.
Bon, c'est quand même intéressant de voir que jouer du piano, ça peut avoir autant d'effets.
Ben effectivement, mais quand tu y penses, là, jouer au piano, là, effectivement, là, ça demande... Tu sais, quand on disait ça demande du doigté...
Oui, de la dextérité, c'est
la dextérité, mais aussi, il fallait que tu regardes ta feuille.
Oui.
Fait que, tu sais, à un moment donné, là, tout travaille. Là.
La coordination entre les mains et les yeux.
Exactement. Fait que tout travaille, ton cerveau travaille, puis... Les auteurs de cette étude parue dans le journal Brain Science... quand même pas n'importe où là, qu'ils l'ont publié, là, sont arrivés à ce constat après avoir mené une expérience auprès de 86 volontaires d'un âge moyen de 72,5 ans. Ils étaient tous en bonne santé, présentaient aucun problème neurologique ou moteur significatif. Là. Certains d'entre eux avaient même déjà joué dans le passé, mais ça restait quand même des débutants. Là.
Oui.
Restait quand même des débutants. Mais c'est intéressant de voir que cette étude-là a réussi à aller chercher tout ça. De manière générale, l'étude qui montre à quel point l'apprentissage d'une habilité motrice comme le fait de jouer du piano sollicite notre cerveau.
En clair, tu n'as pas besoin d'être un pianiste accompli pour nécessairement en tirer les bénéfices.
Ben non, c'est ça. Juste le fait de jouer va nous aider. Les tâches rendues automatiques par l'apprentissage nous stimulent sur le plan cognitif, mais même si on a tendance à penser que jouer du piano, c'est relativement simple, non, ça fait vraiment travailler presque le corps au complet, là.
Wow! Ben moi, j'aime ça quand j'entends des affaires comme celle-là. On a parlé de marche, par exemple, dans une émission précédente où on disait marcher tant de temps pour prolonger votre espérance de vie. Là, on est en train de dire aux gens, mettez-vous aux leçons de piano ou à tout le moins, essayez de pianoter un petit peu là, une fois de temps en temps.
C'est ça. Laissez la tondeuse de côté pour un bout.
Oui. Ben oui, puis exactement, M. Lavoie tantôt nous l'a dit. Alors, regardez votre... Jouez donc du piano en avant de la fenêtre du salon.
Et regardez pousser vos pissenlits.
Pousser les pissenlits, simplement. Ça va vous calmer l'esprit, puis ça va vous rendre un petit peu plus zen.
Et voilà! Nous autres, on a la solution à tout, hein, finalement.
Ah, OK. Tu sais, il n'y a pas de problème.
Non,
il y a juste des solutions.
Pas de problème.
OK. Dans un moment, est-ce qu'on attaque le quiz?
On attaque le quiz, mon cher.
Est-ce que c'est moi qui suis le maître de chantier?
C'est toi, l'animateur.
C'est moi, l'animateur. Alors, dans un instant, nous reviendrons avec le quiz.
Pour rester en contact avec Peut contenir des infos, abonnez-vous à notre page Facebook. Si vous avez des suggestions, des idées ou des questions à nous soumettre, écrivez-nous par courriel pcdi@radiorfa.com.
Quiz.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Le quiz. Le quiz.
François Côté, c'est ton nom encore?
Je regarde en arrière de moi, non? Ça doit être moi, oui.
Il n'y a que toi dans le studio. Oui. Es-tu une bonne fourchette? Es-tu quelqu'un qui mange?
Je mange pas beaucoup, mais j'adore manger. J'adore goûter.
Est-ce que tu aimes manger des choses qui vont te sortir un petit peu de ta zone de confort, par exemple?
Oui.
Qui vont t'entraîner ailleurs à travers la planète par le biais de ton assiette?
J'ai déjà mangé des pâtes de poulet.
Ouais, t'es allé là, ouais.
Des pieds de poulet, là.
Pensais que t'allais me parler des egg rolls.
Non, des pieds de poulet bouillis. Là.
Pour vrai?
Oui, je mangeais ça.
Ouh, OK. Mais je
n'étais pas... j'en mangerais pas d'autres.
OK. Mais tu l'essayes.
Mais je l'ai essayé. Il fallait que je l'essaye. J'avais pas le choix.
Ce quiz, vrai ou faux?
Oui.
Alors, comme il n'y a pas 75 choix de réponse, c'est vrai ou faux, va porter sur la cuisine internationale.
Oh! My God, OK. Ça risque d'être un petit peu plus compliqué.
Ben non, pas tant. Tu vas voir, il y a des questions qui sont peut-être un peu plus compliquées que d'autres, mais allons-y avec une première question. Vrai ou faux? Le sushi est un mets qu'on attribue traditionnellement à la Chine. Vrai ou faux?
Faux.
C'est faux. Le sushi...
Oui, c'est japonais, hein? Oui,
exactement, okay. Qui est composé de riz vinaigré et de différents autres ingrédients, comme du poisson cru, par exemple, et certains légumes de temps en temps, tu sais, comme du, on peut mettre du concombre ou des affaires comme ça. Le gingembre aussi, un peu,
oui,
je pense.
Oui, okay. J'aime ça du sushi.
Alors, c'est l'un des plats les plus emblématiques, tu l'as dit, du Japon.
OK.
Tu vois...
Puis tu peux faire plein d'affaires avec des sushis en passant. Hein?
Ben oui, absolument. Il n'y a pas juste une sorte de sushi.
Non, c'est ça.
Tu peux les rouler un petit peu dans les graines de sésame.
Tu peux faire plein d'expériences avec ça.
Moi, je ne suis pas expérimenteux à ce point-là.
Mais tu pourrais.
Mais je pourrais.
Oui, tu pourrais.
Vrai ou faux? Deuxième question. La paella est la spécialité nationale des Italiens. La paella.
Faux.
Faux, absolument. Faux. Ben non, c'est pas loin, par exemple. Oui. Là, c'est qui se met à côté, oui. Presque. Là, t'sais. La paella est un plat espagnol, plus spécifiquement de la région de Valence. C'est de là que
ça. Ça, je ne savais pas, mais je savais que c'était de l'Espagne.
OK. On est toujours dans la cuisine internationale.
La paella, c'est un plat, en passant, c'est un plat avec plein d'affaires dedans.
Ouais, c'est du riz, puis il y a des. Tu peux mettre des fruits de mer.
Tu peux mettre des fruits de mer, mais il y en a d'autres que c'est fait avec la saucisse, genre, avec des choses comme ça. Là, mais oui, effectivement, là, c'est quand même un paquet d'affaires. C'est bon de la paella.
Oui, c'est bon de la paella. Vraiment. Première fois que j'avais goûté de la paella, j'étais ado, là, tu sais, puis c'est une des. C'est la mère de ma copine de l'époque m'avait fait goûter ça. Puis autres, ils aimaient la paella, mais la paella, tu sais, comme un peu comme un feu, deux feux ou trois, là, tu sais,
oui.
Un petit peu plus que... Fait que j'avais découvert la paella avec le plus, là, genre. Fait que ça m'avait laissé une marque un peu... J'en ai goûté d'autres depuis qui étaient un petit peu moins marquantes, là, mais... Donc celle-là, elle m'avait elle fait de bonne impression.
Surtout quand t'es pas habitué de manger épicé.
Ouais. Alors là, elle n'avait mis un petit peu plus que le client en demandait, finalement. Puis je l'avais pas demandé, fait que... Vrai ou faux? Troisième question, le kimchi est un plat d'origine coréenne.
Le kimchi, c'est vrai.
C'est vrai. Le kimchi, c'est un plat d'accompagnement lacto-fermenté à base notamment de choux, de piment et d'autres légumes, et ça fait partie de la cuisine coréenne. Qu'est-ce que c'est la lacto-fermentation, d'après toi? As-tu déjà goûté de la choucroute?
Oui.
C'est lacto-fermenté. C'est-à-dire qu'on fait, on met les légumes dans un pot avec de l'eau bouillante, là, tout ça. Et c'est les enzymes qui vont faire que le légume va cuire, entre guillemets, là, changer, on va dire, d'allure dans le pot, là. C'est un petit peu ça. Voilà. Vrai ou faux, le haggis. Connais-tu le haggis?
Le haggis.
Oui, le haggis.
Peux-tu me l'appeler?
H-A-G-G-I-S. Je pense que je le prononce comme du monde, le haggis.
Oui, haggis.
C'est un plat qu'on attribue aux Anglais. Est-ce que c'est vrai ou faux?
Savoir c'est quoi, je pourrais te répondre, mais honnêtement, là, j'ai aucune idée. Alors, je vais dire oui.
Ben, c'est faux. Mais tu sais, comme, il n'y a pas de problème avec ça, là, parce que bien du monde ne connaît pas ça. Le haggis, on le prépare avec des abats de mouton, de l'avoine.
Avec des quoi?
Des abats. Tu sais, il y a des poumons, du cœur. Il y a plein d'affaires.
Qui est tout complet, là.
Il n'aurait pas dû y aller jusque-là, peut-être.
Non.
Tu as posé la question. Vous allez avoir la réponse.
Si les gens sont à table ou non.
Il y a de l'avoine, il y a des oignons, il y a des épices. Et ça, ce n'est pas originaire de l'Angleterre, mais plutôt de l'Écosse.
De l'Écosse. OK.
Puis, allez pas dire à un Écossais que c'est un Anglais.
Non. Haggis, hein?
Haggis.
OK, mais connaissais-tu ça?
Puis c'est comme un peu...
Mais t'en as-tu déjà mangé?
J'en ai jamais mangé, mais je connaissais le haggis.
Okay.
J'en avais entendu parler. J'ai même vu à la télévision des préparations de haggis, puis ça m'a pas plus réconcilié, ça m'a pas plus donné le goût d'en manger.
Ah non, hein?
Non.
Non?
Non. Je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà mangé à la maison puis qui aiment.
Ouais.
Ben, je suis content pour vous autres.
OK.
Ça se peut que des fois, quelqu'un aime de quoi, puis tu dis, coudonc, moi, j'aime pas ça. Ben, je suis content. Si vous aimez ça, tant mieux.
C'est ça, tant mieux.
Mais moi, je suis pas dans l'équipe.
T'es pas un gars
Ça m'attire pas.
T'es pas un gars de sardines. Moi, j'haïs pas ça, des sardines.
Ben, voilà.
Je ne mangerai pas tous les jours, mais...
Cinquième question, vrai ou faux? J'en ai 10 au total, on est rendu à mi-chemin. Est-ce que le couscous est un plat typiquement mexicain? C'est vrai ou faux, d'après toi?
Le couscous.
Ouais, le couscous.
Ça, c'est moule, ça vient de... Faux.
Faux. Le couscous, c'est un plat qu'on cuisine plutôt traditionnellement dans les pays d'Afrique du Nord mm-hmm. et du Moyen-Orient. C'est bon,
et
le couscous.
J'adore le couscous.
Ouais, c'est bon.
Tu sais, tu fais cuire ton couscous, mais ouais. tu le mets dans du bouillon de poulet.
Ben oui, c'est classique. Ah. Mais ça, c'est le genre d'affaire
qui bon.
On fait beaucoup ça aux Nord-Américains pour leur oui. les faire, les habituer un peu à manger,
à manger
affaires,
d'autres affaires.
D'autres
là,
affaires, oui. Mais c'est pas vraiment en partant. Il n'y a rien de poison dans le couscous. Là, c'est ben quoi? Non. C'est de la semelle, le semoule de... C'est de la semelle.
La semelle?
La semelle.
C'est de la semelle de botte.
Non, non, la semoule.
Okay.
Tu sais, quand la langue, elle fourche,
ouais,
ça arrive. Excusez-moi, là. Je n'allais pas dire ça.
Mais c'est ça pour dire que c'est bon.
Ben oui.
Et ça remplace le riz une fois de temps en temps.
C'est ça, exactement. Sixième question. Vrai ou faux? Ça va être un peu plus compliqué quand même. La quiche est originaire d'Asie du Sud-Est. Vrai ou faux?
Oh my. Asie du Sud-Est. Hein?
Asie du Sud-Est.
La quiche. Je dirais que c'est faux.
C'est faux, effectivement. Ah, t'es bon. T'es quand même bon depuis tantôt. Ouais. Impressionnant.
Bon, ou chanceux, un des deux.
Non, mais ben, tu sais, des fois...
Ouais.
Alors, ses origines remontent aussi loin qu'à l'époque médiévale, la quiche.
Aïe, aïe, okay.
C'est quoi une quiche? Ben, c'est une espèce de tarte salée
oui.
à base d'œufs battus et de crème. On va faire des quiches au jambon, fromage,
oui.
Des quiches à... Ben, on appelle ça les échalotes. Hein?
Quiche Lorraine, hein?
Quiche Lorraine, oui, ouais, c'est ça. Ça
jambon,
ça.
Jambon fromage.
Mm. Alors, elle est plutôt née, elle est plutôt née en Europe. En Europe centrale.
OK. Ouais.
Vrai ou faux, septième
oui.
question. Le pad thai est un plat national de la Thaïlande.
Le pad thai, c'est faux.
C'est vrai.
C'est vrai?
Ouais. Tu pensais qu'il y avait une poigne?
Oui.
Il n'y a pas de poigne. Le pad thai.
J'aime tellement ça.
Ben ouais, le pad thai, c'est un plat de nouilles qu'on fait sauter avec divers ingrédients et c'est effectivement l'un des plats nationaux parmi les plus célèbres de la Thaïlande.
Thaïlande? Ah, ah ben, honnêtement, je n'aurais pas pensé à ça. Et tu peux les avoir très épicés aussi en passant. C'est très
ah oui, ça, je
c'est
sais
très
aussi.
Bon, un pas de thaï épicé.
Ouais, mais tu sais, à un moment donné, tu as tes limites.
Oui.
Bien
oui,
sûr. Il faut savoir les...
On a l'échelle, hein?
Il y a l'échelle.
Oui, j'ai goûté, en parlant d'échelle, j'ai déjà goûté à différents piments. Je ne me suis pas rendu en haut. Je n'ai pas été capable.
Le Reaper, là, je ne sais pas trop comment il s'appelle, là.
Non. Trop, c'est trop.
Huitième question. Encore un vrai ou faux, évidemment. Le bœuf bourguignon est d'origine belge.
Le bœuf bourguignon, non. Moi, je dirais que c'est faux.
C'est faux. Est-ce que tu sais de quelle origine il est?
Moi, je dirais que c'est français.
Absolument, monsieur.
Oui.
Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le bœuf bourguignon est un plat, est un plat national ou a été nationalisé comme un plat français. Tu sais, il y a des gens qui disent le mets national des Français, bœuf bourguignon.
C'est le bœuf bourguignon, oui, non, c'est pas.
C'est pas un mets national. C'est un plat traditionnel français, effectivement.
Okay.
Mais de là à en faire un mets national, c'est un autre game.
Ouais.
Okay? Vrai ou faux, le ceviche. Le ceviche est un plat d'origine sud-américaine. Vrai ou faux?
Je dirais faux, je dirais hongrois.
Le ceviche est un plat, effectivement, c'est vrai, c'est effectivement d'origine sud-américaine. C'est composé de poissons crus qu'on cuit dans une marinade acide. C'est généralement du jus de citron vert, donc de la lime, entre guillemets. Le ceviche, c'est un plat, effectivement, sud-américain qui a même été inscrit par l'UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l'humanité comme l'expression même de la cuisine traditionnelle péruvienne. Ça a l'air que ça, c'est un plat dans la cuisine traditionnelle péruvienne.
Ouais.
Le ceviche, ça fait partie de la game. Là.
Je me suis tellement gouré, là. Parce que ceviche, dans ma tête, là, c'était la soupe froide. Je ne sais pas pourquoi j'avais... Ça a comme allumé cette lumière-là.
Okay.
C'était pas la bonne lumière qui a allumé dans ma tête.
Bon, mais
tu comprends-tu, à un moment donné, c'est des petites charmes là-dedans? Là.
Ça arrive de temps en temps.
C'est pas
là,
bonne.
Non, mais on n'est pas obligé de toujours être sa coche, comme on dit. Parce que déjà, t'as quand même pas mal de bonnes réponses.
Oui,
là.
Non,
t'es pas...
Je me défends quand même pas si mal pour un gars qui mange une sandwich au beurre de peanut et confiture, puis qui aime vraiment ça. Là.
C'est ça. Mais non, mais mine de rien, là, sushi, c'était bon. Paella, tu l'as eu. Kimchi, non, mais franchement, là, t'es... je ne vais pas dire que tu étais patent, là, mais j'irai pas là, mais c'est quand même pas pire.
OK. Ouais, mais c'est quand même le fun que tu ne m'as pas garoché le pot.
Ben, je t'ai pas garoché des fleurs nécessairement, mais
non,
t'as pas eu
mais
le pot
au moins
non
le
plus.
Pot,
c'est comme, c'est un
ça.
Peu, c'est une bonne affaire.
Tu m'as pas envoyé le pot.
Et on va compléter avec la dixième et dernière question, et je pense que ça va marquer la fin de cette émission-ci. J'espère que les gens ont apprécié le quiz avec On va rester dans le poisson un peu, mais d'accord. On va aller d'un autre game.
Oui.
La bouillabaisse est d'origine russe, d'après toi?
Bouillabaisse.
Tu sais quoi, la bouillabaisse, oui. En partant? Ouais.
Oui, peut-être. Je sais pas. Je vais prendre une chance. Oui.
C'est faux. La bouillabaisse, c'est une soupe de poisson traditionnelle. Oui. Puis quand on dit quand il y a fond traditionnel, tu sais, quand tu vois même la tête du poisson,
oui,
ça.
Oui, 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 oui.
Alors, ça fait partie plutôt de la cuisine provençale. Et là, elle vient de Marseille, particulièrement, mon ami. Mmh. Eh ouais, tout particulièrement de Marseille. Elle est originaire de Marseille, la bouillabaisse. Alors, Marcel,
j'aurais dû savoir. Hein.
Marcel, tu tires ou tu pointes? Qu'on a joué cette partie de pétanque.
Les petits cochonnets.
Ah, le petit cochonnet, Marcel. Salutations si jamais il y a des gens du coin de la Provence et de ces coins-là, de pays là, qui nous écoutent. On fait ça avec, évidemment, énormément de sympathie. Là, y a rien...
Et on a des amis qui sont là.
Ben oui, puis il n'y a rien de méchant là-dedans. Sais-tu la fin de cette émission-ci qui était encore...
J'ai comme l'impression que oui, mon cher, et n'oubliez pas, nos chers amis, si jamais vous avez des entrevues que vous avez trouvées super intéressantes...
Dites-nous-le.
pcdi@radiorfa.com. On va faire une émission des meilleurs moments.
Même en faire deux, je pense.
Oui.
Parce qu'il y a eu depuis le début de la
semaine
tellement de bonnes entrevues.
Oui.
Ou encore, écrivez-nous sur notre page Facebook de Peu contenir des infos.
C'est vrai.
Moi, c'est qui a fait ça?
Oui.
J'ai mis récemment une petite affaire là, pour vous inviter à réagir en commentant. En disant, moi, j'ai bien aimé cette entrevue-là. Moi, j'ai préféré celle-là. Fait que vous pouvez faire ça par Facebook aussi.
Facebook. Bon.
On conclut pour cette semaine?
Oui, mon cher.
On se fait-tu la semaine prochaine quelque chose de le fun? On se fait-tu une émission?
Une affaire.
À nous de nous maintenant.
À nous de nous.
Ouais.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Bonne idée.
On fait ça la semaine prochaine.
Ouais, bonne idée. Okay. Passez une bonne semaine.